Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, le gouvernement va-t-il reculer aussi sur l'ISF? C'est la nouvelle digue qui se fissure. La réforme de l'année dernière évaluée, peut-être enterrée, on n'en est pas là. Mais ça n'est plus un totem, les déclarations sur ce thème se multiplient. Autre information de la matinée, les agriculteurs vont entrer dans la danse. La FNSEA les appelle à manifester de leur côté la semaine prochaine. Toujours quelques 200 lycées bloqués complètement ou partiellement. Mouvement très violent, dit le ministre de l'Éducation, nous l'entendrons. Quels mots, quels arguments nouveaux peut trouver Édouard Philippe? Débat cet après-midi à l'Assemblée avant un vote qui n'engage pas l'avenir du gouvernement. Les concessions se succèdent, elles ne suffisent pas à calmer la colère. Najat et Gilets jaunes au Pouzin en Ardèche.
On veut le président. Pourquoi il ne se déplace pas pour discuter avec nous?
Vous partez du rond-point si Emmanuel Macron vient discuter avec vous
ici. Il vient discuter avec nous et après on verra. Son Premier ministre, on s'en fout de son Premier ministre. Ouais. C'est à Monsieur Macron de se déplacer.
Face à ce mouvement insaisissable, que peut faire le pouvoir? Invité de ce journal, Raymond Soubi, expert en relations sociales, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Les autres titres de l'actualité. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
À la rubrique médicale, une première mondiale, Hélène.
Oui, un bébé est né au Brésil suite à une transplantation d'utérus. La première, c'est que la donneuse était en mort cérébrale.
Vous nous donnerez les détails et la portée de cette nouveauté. Marseille, un mois après l'effondrement des immeubles, 8 minutes de silence ce matin, comme autant de morts rue d'Aubagne. Carnet de route avec les migrants d'Amérique centrale. C'est l'un des fils rouges de la semaine sur France Inter. Nous retrouverons Laurent Maquetti et Nathanaël Charbonnier au Mexique. La météo, bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
On en a besoin de la douceur?
Ah oui, hein. Avec ce flux océanique, les températures sont encore bien supérieures aux moyennes de saison, excepté dans le nord-est où le mercure ne dépassera pas la barre des 12 degrés. En revanche, prévoyez 13 à 16 dans les autres régions. On ira même jusqu'à 19, voire 20 degrés au pied des Pyrénées. Et puis côté ciel, le soleil va encore briller généreusement dans le sud-ouest et le sud, arrivé par l'ouest de pluies orageuses gagnant l'est du pays d'ici la nuit prochaine.
Jusqu'à 20 degrés un 5 décembre. Le conseil cinéma du mercredi, ce sera L'Étau avec Corinne Pellissier. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Et au 19e jour de cette révolte des Gilets jaunes, nos spécialistes sont là où se joue cette crise ou autour de cette table pour vous donner les dernières informations. Hélène Philly, service économique de France Inter, à vous la parole en premier. Un mur de plus est peut-être en train de se fissurer, Hélène. Une des revendications des Gilets et d'une partie de l'opposition depuis le début, c'est de revenir sur une des réformes importantes du début de quinquennat, l'impôt sur la fortune en général, transformé en impôt sur la seule fortune immobilière. Est-ce qu'on enterre cette réforme? On n'en est pas là. Ce n'est plus un tabou.
Clairement plus, en effet. Benjamin Griveaux insiste pour que son message passe, parce que le porte-parole du gouvernement l'a dit déjà lundi sur notre antenne, sur France Inter, et il le redit ce matin. On va évaluer, et si ça ne marche pas, on va le changer, ce dispositif, cet impôt sur la fortune immobilière. La question est de savoir si l'argent qui n'est plus taxé, les placements financiers bancaires, les liquidités, ça représente près de 3 milliards d'euros pour quelques 200 000 foyers aujourd'hui. La question, c'est de savoir si cet argent sert bien à financer l'économie réelle, les PME, pour qu'elles embauchent, qu'elles innovent, qu'elles investissent. Si ce n'est pas le cas, si l'exil fiscal perdure, alors il faudra le modifier, il faudra le changer. Benjamin Griveaux ne va pas jusqu'à dire le supprimer, mais Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, propose, elle, clairement, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, ancienne formule, hein, si l'évaluation n'est pas concluante. On voit bien que la brèche est là, c'est le symbole du début du quinquennat, le cadeau aux riches que n'avait cessé de dénoncer l'opposition sur les bancs de l'Assemblée l'année dernière. Benjamin Griveaux évoque une évaluation qui commencerait à l'automne 2019. Pardon, les députés ont déjà voté le principe de cette évaluation en décembre dernier. Les conclusions sont attendues au tout début de l'année 2020.
Hier, il y a eu des reculs sur la fiscalité des carburants, le contrôle technique automobile, le prix du gaz et de l'électricité. Aujourd'hui, l'impôt sur la fortune, les petits mouvements. Qu'en disent les Gilets jaunes? L'un de nos points d'observation, c'est au Pouzin, en Ardèche, là où le climat était plus que tendu samedi dernier. Thibault Lefebvre, c'est là que vous êtes depuis hier auprès de ces Gilets jaunes. Que disent-ils de ce recul de l'ISF, eux qui sont mobilisés quasiment depuis le premier jour?
On prend les mêmes et on recommence. 18e jour de mobilisation pour Brigitte, Élodie, Ludo et la cinquantaine de gilets jaunes du Pouzin. Et les gestes du gouvernement n'y changent pas grand-chose. Alain, retraité du bâtiment, 1200 euros par mois.
On est tous contre ce qu'ils font, quoi. C'est pas des avancées, c'est pour nous calmer. On voit sur Facebook, hein. C'est vrai ou pas vrai?
Vrai ou faux, les messages envoyés sur Facebook ne sont pas de nature à calmer les gilets jaunes comme Najat, intérimaire dans la grande distribution, 1158 euros de salaire et 500 euros de découvert.
On veut le président. Pourquoi il ne se déplace pas pour discuter avec nous? Qu'il vienne discuter avec nous et après on verra. Pourquoi il passe pas à la télé? Son Premier ministre, on s'en fout de son Premier ministre. C'est à M. Macron de se déplacer.
Et de l'autre côté du rond-point, les services municipaux s'activent en prévision d'éventuels échauffourées samedi prochain. C'est le maire du Pouzin, Alain Martin, qui a demandé de retirer les grosses pierres du talus central.
On les enlève pour éviter que les manifestants prennent des cailloux pour les jeter sur les vitrines ou sur les manifestants. Et comme les décisions qui sont prises au niveau de l'État sont, à mon avis, parce qu'il peut changer les choses. Et ce que j'ai vu samedi dernier, oui, je suis un peu inquiet. Ouais.
Samedi dernier, 23 gendarmes ont été blessés. Deux hommes arrêtés en marge de la manifestation ont été condamnés à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis.
Et un rapport de l'OCDE qui regroupe, pour le dire vite, les riches pays occidentaux donne des arguments aux manifestants. Rapport sur la pression fiscale, eh bien la France arrive en tête du classement devant le Danemark désormais. Les prélèvements obligatoires représentaient l'année dernière l'équivalent de 46,2% de la richesse nationale en France, ce qui correspond aussi à un haut niveau de service public, mais pas partout. C'est l'une des clés de cette crise. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Débat à l'Assemblée donc à partir de 15h cet après-midi. Le Premier ministre, la majorité, l'opposition, tout le monde prendra la parole. Comment vont se passer les choses?
Alors ça commence, vous l'avez dit, à 15h, déclaration d'Édouard Philippe sur la fiscalité écologique et ses incidences sur le pouvoir d'achat. Devant l'Assemblée, le Premier ministre va donc défendre, préciser certainement les mesures annoncées hier. Une déclaration qui sera suivie de 3h30 de débat, 1h20 pour la majorité. L'opposition se partage le reste. Et non, tout le monde n'aura pas la parole. 5 minutes seulement sont accordées aux non-inscrits. Et c'est Jean Lassalle qui a été désigné pour les représenter. Les élus du Rassemblement national sont donc condamnés au silence et pensent peut-être quitter la séance après le discours cours du Premier ministre. Pour les autres, le temps de parole est défini selon l'importance du groupe. 10 minutes pour les insoumis, ce sera Jean-Luc Mélenchon qui s'exprimera. 55 minutes pour les LR avec différents intervenants, dont Christian Jacob et Éric Woerth. Gauche comme droite qui vont redemander l'abrogation et non la suspension des taxes carburant. Chez les insoumis, on rajoute l'ouverture d'un débat immédiat sur l'ISF. Le gouvernement doit céder ou partir, nous redit le député Éric Coquerel. Un gouvernement qui espère, lors du vote prévu à 19h30, faire le plein de voix, au moins dans sa majorité, et retrouver un peu de souffle.
Et on retient donc un pas d'orateur Rassemblement National, ce qui devrait créer des remous avant le débat de cet après-midi. Le Conseil des ministres, ce matin on précise que ce sera suivi d'un vote, mais qui n'engage pas le gouvernement, hein, ce débat. Le Conseil des ministres, donc ce matin, Cyril Graziani, vous êtes à l'Élysée, analyse politique avec vous. Il y a bien des digues, une série de digues qui sont en train de se fissurer, voire de céder, Cyril, hein.
Et la question de savoir maintenant, qui est en mesure de colmater non pas les fuites mais les torrents qui se déversent? L'exécutif se déploie, se contorsionne pour défendre autant que faire se peut ces mesures. Ce qui se joue, c'est la survie de la 5e République, ose même un ténor de la majorité. Un autre constate un poil sarcastique les limites d'un gouvernement d'experts. Comprenez, la politique doit reprendre ses droits. Le début de volte-face sur l'ISF fait aussi grincer des dents. Un ancien ministre l'avait mis en garde dès le début du quinquennat et il a souri en entendant Marlène Schiappa. Des députés, eux, ont hurlé en découvrant que la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes chargée de la lutte contre les discriminations avait fait un communiqué pour évoquer un rétablissement possible de l'ISF sans que l'on sache à quel titre elle le faisait et avec quelle légitimité, alors que ça n'entre pas vraiment dans son portefeuille. Concernant l'agenda 2019, hyper chargé et explosif, avec notamment la réforme des retraites, un ami d'Emmanuel Macron lui conseille, avant de pouvoir continuer à réformer, de reconstruire, c'est-à-dire un nouveau gouvernement avant Noël si ça se passe mal samedi, en février pour les européennes si ça se calme, ambiance, un ténor de la majorité, lui, rigeaune. Avec tout ce qui s'est passé depuis le début de la semaine, on pourrait écrire un livre.
Cyril Graziani avec Raymond Albouy. Ambiance, vous le dites, il y a eu les violences de samedi, puis des professions qui se greffent à la colère des gilets jaunes, avec des revendications spécifiques. Les routiers en grève à partir de dimanche à l'appel des Faux et de la CGT. Les syndicats seront reçus demain au ministère des Transports. Les camions, donc, dans la rue, et les tracteurs, peut-être, sur les routes. Bonjour Manuel Ruffet.
Bonjour.
La FNSEA appelle les agriculteurs à manifester à partir de la semaine prochaine. C'est assez flou, hein.
Oui, alors c'est flou parce que les dates, lieux et modes d'action seront décidés à l'échelle des départements, de chaque département au cas par cas. La seule consigne claire, ces actions doivent se dérouler dans le courant de la semaine prochaine parce qu'il y a deux rendez-vous clés. Mercredi prochain, en Conseil des ministres, les ordonnances de la loi alimentation et quelques jours plus tard, le vote final de la loi de finances. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA.
Le gouvernement ne doit pas reculer. Nous avons besoin de l'ensemble des dispositifs pour que les négociations commerciales se passent correctement et que certains distributeurs ne soient pas tyranniques par rapport aux agriculteurs et aux industriels. Nous avons aussi des problèmes liés aux charges supplémentaires liées à la transition écologique imposée à l'agriculture. La loi de finances est votée en fin d'année, c'est donc maintenant qu'il faut signifier nos problèmes particuliers.
Ce seront donc des actions des agriculteurs pour porter les revendications des agriculteurs, pas de lien avec les Gilets jaunes.
Nous ne rejoignons pas le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui s'est voulu apolitique et syndical dès le début. Nous avons dit que nous étions en accord sur les problématiques rurales d'éloignement et de surcharge fiscale par rapport à la voiture notamment, mais nous ne rejoignons pas ce mouvement.
Et une dernière consigne est très claire, quelles que soient les actions, elles doivent se dérouler dans le calme.
La fièvre gagne une partie du monde de l'éducation. Dans les universités, blocus à Tolbiac, ça coince à la Sorbonne. Mot d'ordre, non à la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Ambiance bouillante autour de quelques dizaines de lycées. Parmi les points chauds, l'Académie de Marseille, celle de Créteil, celle de Lyon. À Bron, dans la banlieue lyonnaise, une équipe de France 3 a été molestée près du lycée. À Bordeaux, les lycéens de Montesquieu, barrage filtrant, marche en centre-ville. Mathieu, il voulait protester pacifiquement contre Parcoursup, mais...
Ils sont en train de tout brûler, nous on avait fait un truc pacifiste place de la Bourse, on avait bien organisé ça et tout, on avait bloqué le lycée pour que personne rentre et tout le monde nous rejoigne. Et finalement ça tourne totalement vinaigre, ça nous affecte aussi ces réformes, donc on est venu manifester non violemment et voilà, il y a des explosions, des poubelles qui crament, c'est n'importe quoi. Voilà.
Et le syndicat Fidèle appelle à une mobilisation générale demain dans les lycées. Pour l'instant, le ministre de l'Éducation évalue à 200 le nombre de lycées bloqués, soit 5% des établissements. Et Jean-Michel Blanquer avertit.
Ce qui est inquiétant, c'est pas le nombre, c'est qu'on est dans des formes complètement différentes de tout ce qu'on a pu connaître par le passé, avec une violence que l'on n'a jamais vue. Alors que le mouvement vient d'arriver, il est d'emblée extrêmement violent. On voit bien qu'aujourd'hui, comme dans les manifestations de samedi dernier, il y a des gens qui n'ont plus de limites.
Dans les facs, l'UNEF appelle à une journée d'action jeudi de la semaine prochaine. Notre syndicat, la FAGE, dénonce les blocages dans les facs. Quelle manifestation samedi à Paris? On est sorti des facs, là c'est une question plus générale. Au-delà d'un éventuel quatrième épisode Gilets jaunes, une marche pour le climat est prévue et maintenue. Le ministre de l'Intérieur incitait les militants écologistes à reporter et il invite les Gilets jaunes, qu'il appelle raisonnables, à ne pas se rassembler à Paris samedi. Christophe Castaner promet d'accroître la mobilisation des forces de l'ordre en France. La maire de Paris, Anne Hidalgo, ne veut pas qu'on interdise les manifestations. Elle invite Christophe Castaner à mettre en place des dispositifs de sécurité en conséquence. Bonjour Raymond Soubi.
Bonjour.
Président du cabinet de conseil en ressources humaines à Lixio, expert en relations sociales, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Vous seriez aujourd'hui à l'Élysée. Que diriez-vous à Emmanuel Macron ?
D'abord, je constaterai que je suis dans une situation très difficile, ou qu'il est dans une situation très difficile, parce que ce à quoi nous assistons, en fait, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu parce que il s'agit de cybercontestation. Voilà un mouvement lancé par deux personnes que personne ne connaît sur des réseaux sociaux. Mouvement des Gilets jaunes, fort, mais pas très nombreux, et puis soutien massif de l'opinion. Et puis, agrégation d'autres corporations sur des revendications qui ne sont pas du tout celles des Gilets jaunes.
Qui sont spécifiques à chaque fois.
Voilà un mouvement. Je dirais que c'est un ovni social et politique, parce que on n'a jamais vu un mouvement dans le passé.
Il n'y a pas de comparaison dans l'histoire récente.
Il n'y a pas de comparaison dans l'histoire récente, parce que on peut citer, je sais pas moi, le CPE en 2006, mais d'abord c'était des étudiants encadrés, et puis des syndicats encadrés, les mouvements de 95, déjà bien vieux, 20 ans, après tout c'était des salariés du public,
et
du
vous, transport public. Et vous aviez des numéros de téléphone, des interlocuteurs, des gens avec qui négocier. Là, l'une des caractéristiques, c'est que c'est compliqué de trouver des gens.
Le problème, c'est ce que j'appelle la cybercontestation. Il n'y a personne, au fond, dans un mouvement qui n'est pas organisé et qui même tire argument et noblesse de ne pas être organisé, de ne pas être structuré pour représenter la base et toute la base, voire les difficultés qu'ont les Gilets jaunes à trouver des représentants. Il y en a un qui se présente et puis les autres disent non, c'est pas lui, c'est un autre. Enfin, on voit bien. Et donc, le gouvernement, le président de la République, il est face à un ovni du troisième type, si j'ose dire, sans interlocuteur traditionnel, parce que les syndicats, arrêtons-nous une seconde sur les syndicats, ils sont complètement à l'écart du mouvement. Je dirais même que pour eux, c'est de la concurrence déloyale, si j'ose ainsi m'exprimer. Parce que...
À l'écart aussi, peut-être parce que le gouvernement n'a pas su les associer assez vite. Quand Laurent Berger a tendu la main, il était notre invité ce matin.
Oui, il y a ça.
On l'a pas rattrapé, sa main.
Mais je pense que même il aurait retendu la main, le mouvement aurait eu sa logique propre, indépendamment des organisations intermédiaires. Donc je crois que c'est un mouvement qui présente un risque politique pour le gouvernement, bien sûr, qui est un risque social, mais je trouve que c'est, d'ailleurs c'est ce que dit aussi Laurent Berger, c'est un vrai risque pour la démocratie, parce qu'une démocratie suppose qu'il y a des gens élus qui vous représentent, bon, qu'il y a des corps intermédiaires qui vous défendent, or là, les élus ne sont plus reconnus, clairement d'ailleurs de tous bords, et les organisations intermédiaires ne sont pas au cœur du mouvement. Donc les principes même qui font tourner une démocratie traditionnelle, là, ils sont mis à mal.
Je vous ai en face de moi, Raymond Soubi, calme, calme et souriant, mais vous êtes inquiet.
Ah, moi je suis très inquiet. Oui. Je suis très inquiet parce qu'il s'agit d'un mouvement social, parce qu'il s'agit d'un mouvement social non structuré, parce qu'il s'agit d'un mouvement social qui dure, qu'il s'agit d'un mouvement social qui agglomère d'autres revendications, et qu'il s'agit d'un mouvement social, comme je disais, qui peut être dangereux pour la démocratie.
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, ce qu'on fait, d'abord, dans un premier temps, le gouvernement a minoré le mouvement. Oui. Bon, a insisté sur les casseurs, tout ce qu'on sait. Bon, il a annoncé des mesures hier. Le Premier ministre a annoncé des mesures hier.
Trop tard.
Bon, je pense, personnellement, qu'il les aurait annoncées il y a 8 jours ou 9 jours. Elles auraient été beaucoup plus efficaces. Parce que la course contre le temps, dans un mouvement qui prend cette forme, qui prend de l'ampleur et qui agglomère des revendications différentes, la course contre le temps est un élément clé de la maîtrise.
Et donc, alors maintenant, Raymond Soubi, comment rattrape-t-on le train?
Alors, la seule manière de rattraper le train, pour le gouvernement, c'est de faire des concessions, ce qu'il a commencé à faire. Oui. Entre parenthèses, ce qui est dit, que vous rappeliez tout à l'heure, sur l'ISF, qui était quand même l'emblème d'Emmanuel Macron face à tout le monde économique mondial, de dire « Regardez, la France, elle est comme vous, maintenant il n'y a plus d'impôt sur la fortune », et qu'un ministre du gouvernement, le dise, quand on y réfléchit, c'est quand même énorme. Bon, donc le gouvernement, il doit repartir d'une base plus stable. Donc, il est parti dans des concessions, on le voit, il va sans doute ne pas s'arrêter dans des concessions.
Mais vous avez entendu le petit son qu'on a mis en titre, vous étiez déjà dans ce studio, ils en veulent beaucoup plus les Gilets jaunes, on a l'impression que rien ne mord.
Oui, alors le problème, c'est que l'Obama a dit qu'il allait ouvrir une concertation, déclaration du Premier ministre d'hier, et comme vous le rappelez, les gens vont en demander toujours plus dans cette phase de concertation. Donc, je crois que le gouvernement va être mis sous une pression, et le président de la République, très forte, et qui va être obligé, inéluctablement, si on veut que cette procédure ait un sens, de céder sur d'autres plans.
Bon. Lesquels?
Ça, je lui laisse le soin. moi, je ne suis pas président de la République, Premier ministre, etc. Mais sûrement de céder sur d'autres plans. Bon, ça, c'est le temps 1. Quand le temps 1 se sera terminé, quand je n'en sais d'ailleurs rien, il y aura un temps 2. Et le temps 2, c'est de se poser deux questions. La première, est-ce que je peux continuer? Je parle de l'exécutif. Le processus de réforme que j'ai lancé, parce qu'il n'y a quand même pas des petites réformes, il y a l'assurance chômage, la réforme des retraites, sujet colossal qui intéresse tous les Français. Comment, désormais, vais-je pouvoir mener ces réformes? Ça, c'est le premier point à voir. Et donc, quel discours je dois tenir? Et puis la deuxième manière, comment est-ce que je dois gouverner? Comment est-ce que je dois gouverner pour avoir de meilleurs capteurs et de meilleurs relais?
Merci beaucoup Raymond Soubi d'avoir répondu à nos questions. 19e jour donc de contestation des Gilets jaunes. Vous trouverez beaucoup d'éléments d'analyse et de réflexion sur franceinter.fr également.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Les autres grands titres de l'actualité, c'est la naissance d'un bébé d'abord. Circonstance particulière, l'utérus dans lequel il s'est développé est issu d'une greffe. Utérus prélevé sur une femme décédée. Il y avait déjà eu des essais, ils avaient tous échoué. C'est un médecin brésilien qui a réussi l'opération. Le bébé est né il y a un an, on ne l'apprend que maintenant. Hélène Chevalier, c'est un outil de plus pour lutter contre l'infertilité.
Oui, parce que 200 000 femmes dans le monde seraient concernées, plusieurs centaines, voire milliers en France, des femmes nées sans utérus ou qui ont subi une hystérectomie, le retrait de cet organe génital suite à un cancer ou à une hémorragie après un accouchement. Jusqu'ici, seules les greffes issues de dons vivants avaient permis à des femmes de devenir maman, une quinzaine de bébés seraient nés ou devraient naître d'ici quelques mois de cette manière. Mais les tentatives avec les dons de patientes en état de mort cérébrale avaient jusqu'ici toutes échoué. Le succès de cette opération est donc un vrai espoir, estime le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service en gynécologie de l'hôpital Foch à Suresnes. Il fait partie de la vingtaine d'équipes à travailler dans le monde sur ces greffes d'utérus.
Si on reste sur la donneuse vivante, donc il faut trouver une donneuse qui doit être âgée de plus de 40 ans, qui doit avoir des enfants, il y a plusieurs critères. il n'est pas toujours évident d'avoir une femme vivante qui veut bien donner son utérus à une proche, parce qu'en fait la condition c'est avoir une donneuse apparentée.
Alors qu'avec cette technique, entre 50 et 100 patientes en mort cérébrale pourraient devenir des donneuses potentielles chaque année en France. Ce que montre aussi cette naissance, c'est l'amélioration des techniques. En France, deux équipes y travaillent, l'équipe des professeurs Youbi et Friedman à Suresnes et l'équipe du docteur Tristan Gauthier au CHU de Limoges. La première se concentre sur des greffes de donneuses vivantes, la seconde sur des donneuses en mort cérébrale. Elles ont toutes les deux obtenu récemment l'autorisation pour des essais cliniques. La première greffe d'utérus pourrait avoir lieu en France d'ici 6 mois.
Merci Hélène Chevalier dans ce domaine de la santé. Tout autre sujet, gare à la bronchiolite chez les tout-petits en Ile-de-France et à Paris en particulier. Épidémie particulièrement sévère cette année. Le nombre de malades est en forte hausse par ailleurs par rapport à l'année dernière. Un mois de crise des taudis à Marseille. Il y a un mois exactement, 2 puis 3 immeubles s'effondraient rue d'Aubagne, tout près du Vieux-Port. 8 morts. Et l'on a mesuré alors à quel point la ville était infestée de logements insalubres. On évalue leur nombre à 10 000 ce matin dans la ville. Minute de silence pour les victimes d'il y a un mois. 8 minutes comme le nombre de morts. Olivier Martoc.
La cérémonie est totalement improvisée. Les immeubles effondrés sont à 50 mètres devant une devanture de magasin fermée. Des bougies, des fleurs fanées et des portraits de victimes.
On peut observer 8 minutes de silence à la mémoire des 8 victimes du drame du 65 rue d'Aubagne.
Je veux remercier Marseille. Mais le Marseille d'en bas, pas celui d'en haut. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, à chaque hommage qu'on leur a rendu, c'est le peuple marseillais qu'on a trouvé avec nous. Et merci à tout le monde d'avoir fait le déplacement aujourd'hui, de ne pas les avoir oubliés. Merci beaucoup.
L'émotion des participants est réelle, il y a beaucoup de colère aussi.
On n'a eu que du mépris. Maintenant, oui, je dis la mairie ne m'a pas aidée. Je ne les remercie pas.
Et plus généralement, un sentiment d'injustice.
C'est bien pour ça qu'on a fait ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui prend le relais sur la question du deuil. On a l'impression d'être effectivement très seul dans la douleur du quartier, dans le traumatisme qu'on vit tous les jours, avec ces familles qui ont perdu des gens. Avec ces familles qui ont tout perdu.
Quand il y a des drames et tout ça, c'est pas les hommes politiques qui viennent, ils sont pas là. On est des pauvres, et les pauvres, on les soutient pas, on les écrase.
Samedi, 12 000 Marseillais sont allés crier leur colère sous les fenêtres de Jean-Claude Gaudin. Ils étaient 6 fois plus qu'à la manifestation des Gilets jaunes. Un mois après le drame, la colère ne retombe pas. Marseille. Olivier Martoc, France Inter.
C'est un pacte qui multiplie les déclarations de bonnes intentions, mais certains le voient comme un encouragement massif à l'immigration. Le pacte mondial sur l'immigration, produit et promu par l'ONU, doit être signé aujourd'hui lors d'un sommet à Marrakech. L'immigration, sujet brûlant en plusieurs points de la planète, la Méditerranée bien sûr, mais aussi l'Amérique latine. Ceux qui fuient la crise au Venezuela, la violence en Amérique centrale, direction le Mexique et les États-Unis. Alors toute cette semaine, France Inter vous propose de suivre la route des migrants au Mexique avec Nathanaël Charbonnier et Laurent Maquetti. Le voyage commence dans la région du Chiapas, région pauvre. Reportage à Tapachula.
Le salaire minimum au Mexique est de 80 pesos par jour, 4 euros. Pas de quoi partager forcément et pourtant, sur la petite place du centre de Tapachula où tout le monde se retrouve, musiciens, familles, danseurs, les regards sont bienveillants et les paroles sont sages. Et ce vieil homme d'expliquer que oui, il y a parmi les migrants des gens bien qui veulent travailler comme eux. Mais malheureusement qu'il y a aussi des personnes méchantes qui font le mal sur leur passage avec la drogue, qui violent et tuent aussi, et cela il ne le veut pas. Les cloches annoncent que la nuit est tombée, mais le soleil semble continuer de briller dans le cœur des Mexicains. Les serreurs de chaussures s'activent et les vendeurs de bonbons attirent les familles. Assis sur un muret, cet homme nous explique alors qu'ici, tous sont susceptibles d'être migrants un jour.
Eux aussi sont des victimes. Et les responsables de la situation, c'est le gouvernement. Parce que c'est à cause que le gouvernement ne satisfasse pas les besoins des gens, ils sont obligés de partir pour chercher de meilleures conditions. Et c'est la même situation pour les Mexicains qui partent aux États-Unis.
Et finalement, c'est peut-être cela l'histoire de l'Amérique latine. Celle d'un continent mosaïque uni par une langue commune, mais aussi par les révolutions qui se succèdent à tour de rôle et qui rassemblent bien au-delà des frontières. À Tapachula, Laurent Maquetti, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Et ce carnet de voyage du Mexique aux États-Unis avec les migrants, texte, images, son, il est évidemment à retrouver sur franceinter.fr. Un peu de potion magique, un bébé magique et du rock'n'roll. Voilà le cocktail de la semaine au cinéma. Astérix, le secret de la potion magique, le héros de Goscinny, vu par le créateur de Kaamelott, Alexandre Astier, dessin animé co-réalisé avec Louis Clichy, c'est une des sorties de la semaine. Pupille, les premiers moments dans la vie d'un bébé abandonné par sa mère à la maternité, c'est avec Sandrine Kiberlin, Gilles Lelouch,
Touche et Elodie Bouchèze. Et puis le rock, c'est avec vous. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
C'est le conseil de la semaine. Leto, ça veut dire l'été en russe, vous qui parlez couramment russe, de Kirill Serbrennikov. Se déroule en ce moment son procès à Serbrennikov pour détournement de fonds. Et au même moment sort donc ce film du metteur en scène russe. Nous sommes dans les années 80, Russie soviétique, Leningrad, la vie d'un pionnier du rock. Énorme coup de cœur que vous avez eu pour ce film noir et blanc, BO sublime, dites-vous. Le film n'a pourtant bien failli ne jamais voir le jour.
En fait, ce sont les équipes techniques du réalisateur qui ont terminé le film quelques semaines avant sa présentation à Cannes en mai dernier, puisque Kirill Serbrennikov était en plein tournage lorsqu'il a été arrêté et assigné à résidence pour cette histoire de détournement de fonds dont on l'accuse et pour laquelle il comparaît en ce moment. Plus d'ordinateur, plus de scénario, plus de notes de travail. C'est donc par le biais de son avocat que son équipe a pu terminer le montage du film.
Et bravo l'équipe, le résultat est remarquable autant sur la forme que sur le fond.
Énormément de trouvailles, de mise en scène, des personnages forts et un vrai souffle romanesque pour cette épopée rock en noir et blanc dans la Russie des années 80. L'émergence d'une nouvelle musique qu'on s'échange sous le manteau. Les personnages dans le film sont tous fans de Blondie, de Mark Bolan, de Lou Reed, de Bowie. Ils se prennent en photo avec les pochettes de disques pour se prendre pour eux. Ils sont tous fans, sauf Victor Tsoï, celui qui deviendra par la suite la grande icône du rock en Russie.
Et c'est son parcours que l'on suit, Corinne.
Parcours initiatique, voilà sa rencontre avec Mark Nomienko, le futur fondateur du groupe Zoo Park, qui va lui mettre un peu le pied à l'étrier. Et avec aussi sa jolie copine Natacha, dont tout le monde est amoureux.
Le triangle amoureux pour aborder une époque, une jeunesse, créativité foisonnante mais bridée.
Oui, en fait, c'est l'époque des premiers clubs de rock à Leningrad. Le rock est en train d'émerger, mais tout est encore très très contrôlé. Le public est assis, il y a dans la salle un service d'ordre qui est là pour réfréner les ardeurs des spectateurs qui bougeraient par exemple un petit peu trop la tête.
Les musiciens doivent faire viser leur texte par un comité de censure.
Exactement. Ouais. Et malgré tout cela, il y a une émulation qui est en train de se créer autour de ces futurs rockstars, éprises de liberté, qui portent des lunettes noires, des costumes blancs. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils se moquent des conventions et ça fait du bien.
Et donc avant de se quitter, un extrait de la BO qui a été primée à Cannes.
Лето, я и жарен как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. Ага. Лето, я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. Ага.
C'est vrai qu'elle est bien la BO.
Ah oui, elle est formidable. Alors là, je vous ai pris un extrait qui aide à digérer, mais il y a aussi des reprises de Mark Bolan et aussi des Talking Heads, notamment Psycho Killer qui est extraordinaire.
Bon, très bien. Leto au cinéma cette semaine et à écouter. C'est un film au passage, un film France Inter.
La météo avec les œufs fermiers de Loué. Loué, le bon goût de la liberté.
Oui, musicalement, c'est différent. Jean-Pierre Rameau.
La douceur va rester au programme de votre journée. Un bémol tout de même, les maximales seront tout juste de saison dans le nord-est. Ne prévoyez pas plus de 9 degrés à Strasbourg et 10 à Dijon. Elles seront plus douces ailleurs. Comptez 14 degrés à Brest, 15 à Limoges, 16 à Nîmes, 17 à Bordeaux, 18 à Nice et 20 degrés à Auch. Côté ciel, prévoyez un temps agité dans l'ouest avec des pluies orageuses. Partout ailleurs, votre après-midi sera agréable et sous le soleil, excepté le long du Val-de-Saône où la grisaille va résister. Et puis d'ici ce soir, la perturbation pluvieuse va progresser vers les Pays de Loire, le centre, la région parisienne et le nord. Elle poursuivra son chemin vers l'est la nuit prochaine et n'attendez pas d'amélioration pour les jours suivants. Les perturbations vont se succéder dans un flux d'ouest rapide.